Et à la une ce matin, ce revirement du gouvernement qui est prêt à revoir la baisse prévue de la défiscalisation. On parlera aussi avec le top 5 des métiers les plus recherchés, emploi donc, et puis le magazine de la Havaï qui nous y va. Pour terminer avec un bilan de la première étape, c'était hier. Journal de la rédaction présenté par Lucie Rabriot. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
La défiscalisation outre-mer pourrait finalement échapper à la baisse prévue dans le budget national 2026.
Oui, le Premier ministre a effectivement indiqué que son gouvernement était prêt à revoir cette baisse prévue sur la défiscalisation outre-mer. C'est le sénateur François Patriat qui a posé la question en séance. Il a évoqué les grandes craintes des ultramarins sur l'effort budgétaire qui leur était demandé, disant même que les outre-mer ne pouvaient être la variable d'ajustement budgétaire. Sébastien Lecornu en convient, on l'écoute.
J'ai demandé au ministre, la ministre Amélie de Montchalin, la ministre Naïma Moutchou, de réunir les parlementaires d'outre-mer très vite, parce qu'au fond, on voit bien que les efforts qui sont demandés sur ces lignes budgétaires ne sont pas adaptés aux situations locales. On est déjà sur des dispositifs qui sont des dispositifs de rattrapage, et donc évidemment, en mauvais français, le risque de stop and go peut avoir un effet absolument délétère sur la vie économique locale. Ça veut donc dire qu'il faut faire deux choses. Évidemment, trouver des mesures d'adaptation rapide, l'adapter en fonction aussi des situations locales, parce que en fonction des territoires d'outre-mer, la question du bâtiment n'est pas la même toujours que la question du tourisme, qui n'est pas toujours la même que la question de l'agriculture.
Et on pourrait donc voir le gouvernement amender son texte avant l'examen de cette partie du budget, ce qui est prévu le 9 novembre à l'Assemblée nationale. Et à noter aussi que le projet de loi contre la vie chère dans les Outre-mer est actuellement en examen au Sénat. C'est d'ailleurs à cette occasion que le Premier ministre a fait cette réponse sur la défiscalisation. Et même si ce projet de loi anti-vie chère ne concerne pas les collectivités comme la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, les sénateurs Teva Rohfritsch et Lana Tetuanui ont profité de l'occasion, ils ont demandé à l'État de se mobiliser davantage pour aider ces territoires, comme par exemple en travaillant sur l'allègement des coûts du fret de marchandises.
Allez, on parle emploi maintenant avec ce top 5 des métiers les plus recherchés en Polynésie.
La ministre du Travail, Vanina Krolla, présentait les résultats de la toute première enquête sur le besoin de main-d'œuvre en Polynésie. Plus de 1300 entreprises ont été interrogées, plus de la moitié a répondu et un quart ont des projets de recrutement. Cette étude doit permettre d'ajuster les formations professionnelles et d'anticiper les besoins du marché. On écoute la ministre du Travail, Vanina Krolla.
1815 besoins de recrutement en tout, mais sur ces besoins de recrutement, 63% concernent des recrutements jugés difficiles, parce que d'une part, il y a une inadéquation des profils des candidats, et notamment dû à un manque de qualification ou également à un manque d'expérience ou un manque de motivation.
La plupart des recrutements concernent l'hôtellerie-restauration, le commerce, puis le domaine des transports et du tourisme. Top 5 donc des métiers les plus recherchés et dans l'ordre, caissier, employé de mise en rayon, serveur, employé en hôtellerie et cuisinier. Les métiers de la maintenance, du numérique ou des services à la personne sont aussi en manque de main-d'œuvre. Les employeurs parlent de profils qui ne correspondent pas à leur recherche ou parfois tout simplement du manque de candidats. Sans surprise, Tahiti concentre près de 80% des emplois, suivi de Bora Bora et Moorea.
Des atouts de cette enquête, c'est de pouvoir localiser les projets de recrutement et de pouvoir déployer les dispositifs adéquats dans les lieux géographiques en fonction des enseignements de l'enquête. Et donc, on va venir ici identifier les métiers par archipel, par même commune, et ensuite déployer les formations correspondant aux besoins des entreprises de telle ou telle île.
Et maintenant que le bilan est fait, il faut trouver des solutions.
Là, on a touché les entreprises, ils ont répondu, il faut maintenant toucher nos demandeurs d'emploi. Alors, le CFI a un vivier habituel de 30 000 quand même demandeurs d'emploi, peut-être 10 000 d'actifs uniquement. Donc, il va falloir déjà les capter, ces 10 000 demandeurs d'emploi actifs, pour pouvoir les intégrer dans un parcours de préparation, de formation et d'accompagnement et répondre aux besoins en main-d'œuvre de nos entreprises.
Et voilà, Vanina Krolla qui était au micro de Nani Hilaroche. Le ministère envisage déjà des job dating ou des recrutements par le sport, comme ça s'est fait à Mataïa la semaine dernière.
Vous écoutez le journal de Radio 1 et Thierry FM. L'État a publié son rapport 2024 sur la surveillance de Mejojoa et Fangataufa.
Et voilà ce qu'il dit, les événements microsismiques continuent de décroître au fil des ans. Le risque de survenue d'un événement majeur est au niveau zéro, peut-on lire. L'exposition au rayonnement ionisant issu des essais est à moins de 0,003 millisievert par an.
En parlant nucléaire, il y a du changement à la délégation au suivi des conséquences des essais.
Oui, Yolande Vernaudon était en poste depuis 2017. Elle avait succédé à Bruno Barrio. Elle va être remplacée par l'écrivaine Titawa Pehu. Titawa Pehu qui prendra son nouveau poste donc le 2 novembre prochain et devra mener à bien le projet de centre de mémoire sur la période du CEP. Si le chantier respecte le calendrier fixé, le Pou Mahara devrait voir le jour début 2031.
Et puis on part aux assises, Lucie, avec ce père incestueux qui a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 12 ans.
Il était accusé d'avoir violé sa fille, des agressions qui ont commencé à l'âge de 8 ans jusqu'à ses 13 ans. Un procès qui a duré 3 jours pendant lesquels il a continuellement nié, adressant même des reproches à ses enfants. Il a été jugé coupable et condamné à 18 ans de réclusion, donc avec une peine de sûreté de 12 ans. La cour lui a également retiré l'autorité parentale. L'homme a tout de suite dit qu'il ferait appel de ce jugement. Les comptes rendus d'audience de ces 3 jours sont à lire sur notre site radio1.pl.
Et à 7h06, Lucie, cette date à noter pour les passionnés d'histoire, c'est le 12 novembre.
Oui, l'Assemblée organise une exposition et une conférence sur Opuhara et la bataille de Feipi. Le chercheur et professeur à l'université Bruno Sora et la directrice de la culture et du patrimoine Joanny Cadousteau ont assuré la conception scientifique et la rédaction des textes. La bataille Feipi, c'est un épisode déterminant de l'histoire de Tahiti. L'exposition revient sur cet affrontement qui a opposé la figure emblématique des Tewa de Papara, le chef Opuhara, au roi Pomare II, et donc tous les changements qui en ont découlé. Des panneaux illustrés seront installés dans le hall de l'Assemblée jusqu'au 21 novembre et des conférences seront organisées le 12 novembre à partir de 8h30. Elles seront retransmises en direct sur Facebook et YouTube, puis disponibles ensuite en replay.
Allez, on termine avec du sport. Évidemment, place au VA.
Le MAG Hawaii Kino y va à 2025 avec Hyper Upir Air, Redcon One Energy et la lessive Xtra.
Et un petit retour sur la première étape qui s'est déroulée hier, Lucie.
Oui, l'OPT l'a emporté quelques secondes devant Air Tahiti et Shell complète le podium. Et puis tous les trois battent le record de l'étape détenue par Shell depuis 2010. On écoute l'analyse de notre consultant Alex de VA News.
On a pu profiter de conditions exceptionnelles avec un très beau surf et un vent arrière. Et on a pu le constater donc dès l'arrivée. Eh bien, les records de 2010 ont été pulvérisés, hein, tout simplement. Pratiquement 9 minutes hein, d'avance sur le chrono de 2010. Et c'est le team OPT qui a su tirer son épingle du jeu en surfant vraiment d'une manière magistrale en 3h, 3 minutes et 57 secondes, suivi par RTT en 3h, 4 minutes et 13 secondes. Et enfin, Shelva complète le podium en 3h, 5 minutes et 4 secondes.
Record pulvérisé donc, puisqu'il était de 3h11. Les trois premiers hier ont donc fait 7 à 8 minutes de mieux. Et sur la course junior, 4 réclamations ont été déposées pour des manœuvres non réglementaires ou des fautes des bateaux suiveurs. Une pénalité de 5 minutes a été infligée aux contrevenants, ce qui permet à EDTVA de remporter l'étape. Côté femmes, sur 16 km, c'est l'équipage A de Ihilaniva qui l'emporte. Une victoire au sprint devant l'équipe hawaïenne. Ihilaniva a sans doute à cœur de prendre sa revanche, car ce sont les Hawaïennes qui avaient gagné la Hawaii Kinui l'année dernière. Bon, elles ont déjà pris leur revanche en ramenant le trophée de la Molokai, mais elles veulent s'imposer chez elles aussi. La troisième place de l'étape revient aussi à Ihilaniva avec son équipe B. Et donc, on remet ça ce matin avec la deuxième étape.
On remet les compteurs à zéro pour cette deuxième étape. Il va falloir s'attendre à beaucoup de combats, parce que c'est une course de 26 km, donc c'est un sprint hein, dans le lagon entre Raiatea et Taha. On sait que Shell est très très fort sur ce type de parcours et il est fort à parier qu'ils vont aller chercher 7 minutes de retard pour pouvoir se positionner de meilleure façon avant la troisième étape.
Rendez-vous à 9h pour les départs. Alex de VA News sera bien sûr en direct sur notre antenne de Radio 1 pour vous faire vivre tout ça en live.
C'était le MAG Hawaii Kino Iva 2025 avec Hyper Upir Air, Redcon One Energy et la lessive Xtra.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 avec la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, à tout